Donc, promis, je vais parler fort et je vais parler vite. Donc, moi, je vais vous parler de remédiation cognitive. Donc, de remédiation cognitive pour la schizophrénie. Et je vais vous parler en fait de comment est-ce qu'il serait envisageable aujourd'hui pour la psychiatrie d'agir préférentiellement sur la cognition des personnes malades pour qu'elles puissent prétendre à une vie normale, entre guillemets, hein, normale ou accomplie. Donc c'est une recherche que je viens de terminer après du 8 mois, enfin ça fait en même temps, ça fait 6 mois que je dis que je viens de la terminer. Donc c'est une recherche que je fais 18 mois de terrain dans l'un des deux principaux services hospitaliers français qui développent des techniques de remédiation cognitive. Donc j'ai tout observé, les consultations de psychiatrie, les séances de remédiation cognitive, j'ai fait des entretiens avec les patients, avec tous les soignants, etc. etc. Tout ça pour dire que c'est avant tout un travail de défrichage, donc vous aurez peut-être l'impression que ça part dans tous les sens, il y a plusieurs niveaux d'analyse, mais il y aura des images et il y aura des jeux, ça va être bien.
J'aurais dû faire ça.
C'est toujours bien les images. Donc, qu'est-ce que la remédiation cognitive? Ce sont des techniques qui visent à optimiser les compétences cognitives de personnes qui, donc dans notre cas ici, souffrent de schizophrénie. Et donc des techniques qui se fondent sur la constatation clinique que la maladie se caractérise par de nombreuses atteintes cognitives. Donc par exemple la capacité à mémoriser des informations, à être attentif, à planifier des actions ou à interagir avec les autres. Et donc ces déficits cognitifs ne répondent pas au traitement pharmacologique alors qu'ils ont très souvent des répercussions considérables sur la vie quotidienne des personnes. Et sur leur fonctionnement, c'est-à-dire donc sur leur adaptation à la vie en société. Donc concrètement, il s'agit de programmes d'entraînement cognitif que le patient réalise dans un cadre médical, donc généralement en hôpital psychiatrique, pendant plusieurs semaines. Donc selon les programmes, ça dure environ 3 mois avec deux séances par semaine, avec un thérapeute qui peut être une infirmière, une neuropsychologue, une psychologue, une ergothérapeute. Généralement, c'est une infirmière parce que ça coûte moins cher, les infirmières. Donc qu'est-ce que c'est concrètement? Alors moi j'appelle ça les cahiers de vacances pour schizophrènes. Ce sont des exercices qui sont faits soit sur papier, soit sur ordinateur. Et donc là je vous présente un des programmes qui s'appelle CRT, c'est Cognitive Remediation Therapy, c'est pas très original comme nom. Et donc en gros, on demande à la personne de, alors dans le premier cas, c'est il faut qu'elle recopie la figure en dessous. Alors, dans d'autres variantes, on peut lui demander de la recopier, mais à l'envers. Donc, dans le deuxième exercice, on lui demande de trouver toutes les lettres E. Dans l'autre, le dernier, donc, elle doit entourer, on va lui dire, par exemple, entourer tous les chiffres pairs sur les deux premières lignes et tous les chiffres impairs sur les trois lignes suivantes. Voilà un exemple. Un autre exemple, donc on demande à la personne de, donc ça c'est un exercice sur ordinateur, donc on demande à la personne de mémoriser une recette de cocktail, donc demander à une personne schizophrène de mémoriser des recettes de cocktail, c'est un peu original, mais donc voilà, elle doit mémoriser, elle a un temps limité, et puis ensuite elle doit aller cliquer sur les ingrédients, mettre les doses, mettre le bon verre, etc. Le deuxième, ça s'appelle Basket à New York, en gros il faut réussir à trouver le moins de mouvements possible des ballons pour arriver de la première situation à la deuxième situation. Et je vais passer parce que sinon vous n'allez pas m'écouter et vous allez vouloir le faire. Et la troisième, c'est un jeu de réalité virtuelle. Donc là, c'est un exercice en groupe pour le coup, les autres sont individuels. Où donc on demande à des personnes de se déplacer dans une ville virtuelle et d'aller, donc par exemple, on va leur dire à 8h vous devez aller chercher un ami à la gare, à 9h30 vous devez passer à la poste acheter des timbres, à 10h30 passer à la pharmacie, et donc de manière intéressante il y a tous les lieux de socialisation du quotidien, mais aussi tous les lieux du quotidien d'une personne qui souffre de schizophrénie. Donc il y a le CPAM, il y a le CMP aussi. Alors sur cette version-là, il n'y a pas le cabinet du psychiatre de ville. Enfin voilà. Donc voilà ce genre d'exercice. Bon, cela je vous la laisse, vous pouvez regarder, il n'y a pas grand-chose. Et puis ça s'accompagne. Donc il y a différents niveaux de difficulté. La personne doit passer le niveau de difficulté. Et puis aussi des exercices à domicile. Donc c'est souvent les mêmes que ceux qui sont faits en séance, mais qui sont version papier, qu'on lui donne à faire à domicile. Donc des exercices, des devoirs. Et puis il y a les tâches à domicile qui sont faites en alternance, où là, donc qui sont adaptées aux besoins, aux envies ou au plaisir du malade, En fait, on va lui proposer de faire une recette de cuisine, de lire un article ou de voir un film, et ensuite de revenir en séance et de le résumer, d'organiser une sortie avec ses amis, de ranger ses papiers administratifs, de trier son courrier. Je vais y revenir, ça c'est un truc assez classique. Alors dans le cas de ceux qui sont en train de passer un concours ou des examens, par exemple, on va leur proposer de travailler leur fiche de révision avec eux. Donc le principe de la médecine cognitive, c'est d'accompagner le patient dans le développement de stratégies efficaces, stratégie c'est le terme qu'ils utilisent, de stratégies efficaces dans la résolution d'exercices cognitifs. Et très important, il doit ensuite transposer au quotidien ces stratégies pour venir à bout de situations qui le mettent en difficulté afin d'espérer se réinsérer et d'avoir une vie accomplie. Ça c'est moi qui utilise le terme de vie accomplie. Et donc ça travaille différents types de mémoire, la mémoire verbale, la mémoire de travail, la mémoire visuospatiale, ça travaille l'attention, le raisonnement logique, les fonctions exécutives, c'est-à-dire la capacité à planifier, à organiser et à exécuter une action, faire ses courses, ou encore la flexibilité, c'est-à-dire la capacité à modifier les règles d'une action. Donc quand on a une stratégie qui est mauvaise, au lieu de persister, on change. Voilà, différentes fonctions cognitives qui sont souvent atteintes de manière plus ou moins importante chez les personnes qui souffrent de schizophrénie. Voilà, je vais pas dire d'où ça vient, c'est pas important parce que j'ai plein de choses à vous dire. Donc le plus souvent, le malade est envoyé par son psychiatre de ville ou bien par une structure médico-sociale. Et donc ensuite, dans ce centre qui comporte une psychiatre qui est la chef de service, la psychiatre évalue son profil clinique. Et surtout, essaye de voir si son profil clinique correspond aux objectifs de la remédiation cognitive, c'est-à-dire que, notamment, la personne doit être stabilisée dans son traitement. Et puis surtout, elle doit être capable, a priori, d'identifier, d'avoir des plaintes cognitives, en fait, d'identifier ses difficultés cognitives. Et surtout, j'y reviendrai, c'est très important, elle doit avoir un projet de réinsertion, un projet de vie, c'est le terme qui est en vigueur dans le milieu de la psychiatrie aujourd'hui. Et donc ce projet fait de la remédiation cognitive une indication. Je vais y revenir. Donc s'il répond à ces critères, on l'envoie en bilan neuropsychologique. Donc il y a deux neuropsychologues dans le service. Et donc il passe une série de tests assez laborieux et assez longs sur plusieurs journées pour évaluer ses capacités cognitives. Donc à la fois celles qui sont déficientes, mais aussi ses forces. Donc les forces sur lesquelles il pourrait potentiellement s'appuyer pour compenser les capacités qui seraient déficientes. Et puis ensuite, on lui soumet un programme. On l'envoie vers la thérapeute. Donc là, dans ce cas-là, c'est son deux infirmières qui lui présentent la remédiation cognitive, et il entame la remédiation cognitive avec l'infirmière. Bon, ensuite, il est revu, réévalué, parce que tous ces patients-là rentrent dans des protocoles de recherche. Je ne vais pas en parler. Donc les profils sont extrêmement variés. Ça va de la personne avec d'énormes difficultés au niveau du langage, au niveau de l'attention, qui généralement travaille en milieu protégé ou ne travaille pas du tout, jusqu'à la personne dont l'objectif en fait va être de passer un concours de la fonction publique et qui aura des atteintes relativement mineures, mais qui aura une plainte cognitive tout de même, ce qui est important. Donc je veux insister sur le fait qu'il y a en pratique, la remédiation cognitive, la résolution d'exercices, la définition des stratégies, tout cela, toutes les séances ont un caractère extrêmement répétitif, scolaire. C'est-à-dire qu'il y a une méthodologie précise à suivre. Donc par exemple, quand on présente au malade une de ses feuilles, systématiquement, il doit décrire la feuille, donc qu'est-ce qu'il voit sur la feuille. Il doit ensuite reformuler les consignes. Il doit, avant de s'y mettre, annoncer la méthode, la stratégie qu'il va suivre pour réaliser l'exercice, donc décomposer toutes les étapes. Et puis ensuite, il doit l'appliquer. Et puis une fois qu'il l'a appliqué, il doit vérifier. Et une fois qu'il a vérifié, il doit redécomposer une fois de plus les étapes, etc., etc. Sachant que s'il fait trois fois le même exercice, il repassera trois fois par ce processus. Et donc c'est un cadre qui est extrêmement strict, mais qui en fait vise à compenser, notamment, parmi d'autres choses, l'impulsivité de la personne. Une personne va avoir tendance à se jeter sur l'exercice et à commencer à le faire et à faire n'importe quoi. Donc par exemple, la thérapeute peut cacher une partie de la feuille, histoire de limiter le nombre d'informations. Voilà, et ça aussi lui permet de mieux se concentrer et aussi d'être perturbé par des informations, d'être parasité par des informations qui seraient pas pertinentes. Notamment le fait qu'il y ait un ethnologue dans la salle, dans les pièces avec lui. Donc voilà, et pour l'exercice à domicile, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'avant, on lui donne un cahier, il a un cahier aussi qu'il doit remplir à chaque séance et pour chaque quand il fait une recette de cuisine, et donc il doit annoncer à la thérapeute comment il va faire, aller acheter les ingrédients, donc faire une liste, et organiser sa liste selon les ingrédients et où est-ce qu'il va les trouver dans les rayons. Il doit s'assurer qu'il a les bons ustensiles pour faire la recette, etc., etc. Alors même en amont, il doit aller chercher la recette. Enfin bref. Et donc il doit décrire tout ça, le faire, revenir, redécrire comment il a fait, etc., etc. C'est scolaire, c'est extrêmement scolaire. Donc l'idée directrice, en fait, c'est de provoquer des mises en situation que la personne produise une stratégie pour résoudre le problème, et donc à contraire de le guider, donc de pas lui imposer une stratégie, mais de le guider pour en trouver une, et qu'il réussisse à l'appliquer efficacement, puis à la reproduire, et qu'il arrive à en changer si besoin. Alors pourquoi est-ce que ça m'intéresse, la remédiation cognitive pour la schizophrénie? Bon, d'abord parce que c'est quand même une pratique assez étrange. Alors on est dans un colloque sur la guérison, étymologiquement, remédiation cognitive vient de l'anglais cognitive remediation, et remediation en anglais vient du latin remediare, qui veut dire guérir. Donc on peut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on guérit avec la remédiation cognitive. Bon, on ne guérit pas avec la remédiation cognitive, mais surtout moi ça m'intéresse parce que c'est une pratique qui va se situer à l'intersection d'une variété de mondes, de théories, de conceptions du trouble mental qui se recouvrent, et notamment qui se fondent sur deux notions, concepts clés qui travaillent actuellement en profondeur le champ de la psychiatrie sur leur dimension médico-psychosociale et neuroscientifique. Donc la plasticité cérébrale, j'arrive jamais à le dire, donc à chaque fois je vais me reprendre, et la notion de rétablissement. On l'a déjà vu, mais aussi de leurs interrelations, ça c'est assez important. Et de plus, elle s'appuie sur un projet de mutualisation des ressources sanitaires, sociales, médico-sociales autour du malade, et qui s'inscrit dans l'histoire très particulière, l'histoire française du secteur. Donc il s'agit de comprendre avec ce que cette technique en fait nous dit des conditions nécessaires pour qu'une personne malade qui souffre d'une maladie chronique grave puisse prétendre à une vie accomplie malgré la maladie, et sur les moyens pour y parvenir, et plus largement pour recoller à ce qui nous réunit ici, pour comprendre ce que c'est que de soigner aujourd'hui en psychiatrie. Alors il y a un projet anthropologique un peu plus large qui me tient un peu à cœur, c'est pour moi c'est un point d'entrée pour élaborer une anthropologie de la vie ordinaire dans les sociétés contemporaines, c'est-à-dire de comprendre ce qui rendrait la vie ordinaire possible. Pour moi, c'est l'idée de découvrir ce qui est sous nos yeux, ce que sont nos conditions pour vivre, ce dont nous avons besoin, mais ce qui nous serait devenu tellement familier que nous ne le voyons plus, que nous nous mobilisons pour vivre sans jamais savoir pouvoir l'objectiver, ce que nous avons de commun, mais qu'à un moment, certains perdent. Donc ça renvoie, j'emploie le terme de vie ordinaire dans le sens aussi de Stanley Cavell, du langage ordinaire, ce qui est un langage qu'on partagerait tous, mais qui serait finalement assez inaccessible, assez fragile. Ça renvoie aussi à Canguilhem, donc je ne vais pas revenir là-dessus, on en parle depuis deux jours. Et donc c'est surtout ce qui nous permet d'agir, d'interagir, de comprendre les autres, mais aussi de nous comporter normalement, mais aussi de subvenir à nos besoins, de vivre, de manger, et de vivre dans des conditions décentes. Donc c'est l'ordinaire au sens du commun, du collectif, mais aussi l'ordinaire au sens du quotidien et du temporel. Comment est-ce qu'on prétend ici agir sur le fonctionnement du cerveau humain, c'est-à-dire comment agir dessus, mais aussi agir sur les moyens dont devrait disposer un individu pour mener une vie normale, et donc ce qui devrait être collectivement entrepris par la société pour l'y aider. Donc c'est autant la vie ordinaire au sens des processus vitaux, mais aussi des conditions extérieures qui permettent la vie et qui lui permettent de se maintenir. Donc il me reste 5 minutes, ce qui est très bien puisque j'ai à peu près fait le huitième de ce que je voulais vous dire. Il m'en reste plus. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc d'abord, la remédiation cognitive s'appuie sur l'hypothèse neurodéveloppementale de la schizophrénie. Donc pour aller très vite, c'est une hypothèse qui envisage le trouble comme le fruit d'une interaction entre une vulnérabilité génétique et des facteurs, l'exposition à des facteurs environnementaux. Et donc le tout entraîne un processus pathologique qui affecte le développement neuronal du cerveau et qui se traduit par des anomalies structurelles et fonctionnelles qui sont la cause du trouble. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ces déficits cognitifs, ce sont les déficits cognitifs et non pas les symptômes psychotiques qui constitueraient, dans cette hypothèse, le noyau central de la schizophrénie. C'est-à-dire que ce serait la principale cause des difficultés d'insertion sociale, d'autant plus qu'ils ne répondent pas à la psychopharmacologie, contrairement aux symptômes les plus bruyants de la maladie, notamment les délires, les hallucinations, qui sont en fait, dans cette hypothèse, relégués au second plan. Donc un psychiatre m'a dit de manière intéressante, il m'a dit « c'est l'essence même de la vie », en parlant de la dimension déficitaire de ce trouble, c'est l'essence même de la vie qui est touchée. Et donc cette idée c'est que une fois la maladie et les déficits cognitifs installés, l'organisation prétend pouvoir reconfigurer ce qui aurait été biologiquement entériné. Et donc pour cela, les chercheurs et psychiatres du domaine mobilisent la notion de plasticité cérébrale. J'ai réussi. Alors je vais simplement rappeler que la plasticité cérébrale désigne dans une conception très large le fait que l'embryogenèse, la production de nouveaux neurones, se poursuit pendant la vie adulte et que le cerveau serait donc capable de se réorganiser, donc de réorganiser les réseaux et les connexions entre les neurones, et donc que le cerveau n'est pas fixe, n'est pas figé, et notamment il n'est pas figé dans ses formes pathologiques. Et donc ce qui est ici intéressant, c'est que ça implique que le cerveau est malléable en constante configuration et qu'il serait possible d'amener une rupture dans un processus ou une destinée biologique a priori immuable. Donc ça sous-tend une conception politique extrêmement forte de l'individu contemporain qui traverse de nombreuses dimensions de nos sociétés, je ne regarderai pas. Le cerveau devient un lieu de création et de réinvention de nos devenirs, donc d'action sur nos futurs. C'est-à-dire que c'est un organe dont nous aurions aussi la responsabilité, dont il faudrait prendre soin individuellement et collectivement, mais aussi sur lequel on devrait agir préférentiellement pour déterminer ce qu'on veut devenir. Donc c'est, je renvoie à Nicolas Rose, ça devient le fondement d'un gouvernement des individus. Et donc l'armédiation cognitive s'inscrit dans cette conception de l'homme qu'elle soutient et qu'elle rend possible. Donc je voulais vous parler d'Ingold et de Paulson, notamment, voilà, mais bon, je vais pas en parler. Mais donc derrière, en fait, cette conception de neurodéveloppementale de la maladie, il y a cette idée que ces personnes malades ont perdu quelque chose à cause de la maladie et qu'ils ne le retrouveront peut-être jamais, mais qu'il faut les aider à s'en rapprocher. Donc la question, c'est de savoir comment, c'est-à-dire par quels moyens, par quels mécanismes dans le cerveau, mais aussi quel est le chemin, quelle est la méthode. Donc on agit directement sur les capacités cognitives des individus pour réorganiser durablement leur activité cérébrale et pour les aider à s'adapter en société. Et moi, mon idée aujourd'hui, c'est de vous dire que non, il n'y a pas simplement ça, c'est pas juste la plasticité cérébrale, c'est aussi la plasticité de la vie en général. Et donc je vais revenir juste sur un point qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en fait ils se sont aperçus assez rapidement à la fin des années 2000 que les études montraient que les effets ne se maintenaient pas dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a un cliché qui est répandu, c'est que si on fait de la remédiation cognitive avec un malade qui ensuite retourne chez lui et regarde la télévision toute la journée, il perdra tous les effets bénéfiques de la remédiation cognitive. Et donc, les études ont montré que si la remédiation cognitive s'accompagnait d'une activité en soutien afin de prolonger les acquis de la remédiation cognitive, non seulement elle ne permettait pas les effets, mais ensuite elle pouvait mieux se réinsérer. Et notamment, c'est devenu un argument extrêmement important pour pour en fait associer la médecine cognitive à une reprise d'une activité salariée. Et donc voilà, généralement, les personnes arrivent avec l'idée de passer un concours, d'intégrer une structure médico-sociale, de travailler, etc. Je vais prendre un exemple. Donc c'est une femme d'une petite vingtaine d'années et son objectif était de passer un concours pour intégrer une école de parfumerie. Et sauf elle était, donc l'infirmière me l'a décrit comme très fluctuante, désorganisée et encore parasitée par certaines idées. Et surtout, elle arrive tout le temps en retard aux séances. Donc elles ont mis au point une stratégie, une méthode pour y remédier. C'est-à-dire que l'infirmière l'appelle 45 minutes avant le début de la séance, qui correspond au temps qu'elle mettrait pour venir. Avec l'idée qu'au bout d'un moment, ce serait la patiente qui appellerait l'infirmière pour lui dire qu'elle part, ce qui n'arrivera jamais. Mais seulement, même en l'appelant 45 minutes avant, elle arrive toujours en retard. Plusieurs séances d'affilée, et elle arrive parfois jusqu'à 45 minutes en retard, donc une heure et demie après que l'infirmière l'a appelée. Et surtout, elle ne fait pas ses exercices à domicile. Et donc, lors d'une séance, à son arrivée, l'infirmière lui demande pourquoi elle est si en retard. Donc là, la personne donne des explications extrêmement allusives, extrêmement confuses. L'infirmière n'arrivera jamais vraiment à comprendre ce qu'elle fait entre le moment où elle l'appelle et le moment où elle vient. Et puis, elle dit qu'elle n'a pas fait ses exercices, parce qu'elle dit « j'y ai pas pensé, j'avais pas la tête ». Donc là, l'infirmière essaie de comprendre son organisation au quotidien, c'est-à-dire que où est-ce qu'elle pose ses exercices chez elle. Et donc elle explique qu'elle les pose sur une table, mais qu'en fait, il va apparaître qu'elle ne passe jamais devant cette table. Et donc, elles aboutissent à l'idée, au fur et à mesure, de tout noter dans son agenda. Donc l'agenda est extrêmement important en médecine cognitive, il faut que tous les patients aient un agenda, et on leur demande d'acheter un agenda s'ils n'en ont pas. Et puis donc, elle regarde l'agenda de la malade, et ensuite, elle s'aperçoit que en fait, l'agenda est organisé un peu n'importe comment. C'est-à-dire que la personne note les événements dans la journée, mais elle ne note pas aux horaires. Elle fait juste des listes des événements, des rendez-vous ou des choses qu'elle a à faire dans la journée, mais sans les rattacher à un horaire. Donc, elle lui montre son agenda à elle lui montre comment ça s'organise, comment mettre des numéros de téléphone si besoin à côté, etc. vient après la question de savoir si la personne va regarder son agenda. Bref, donc elle lui dit de noter l'heure à laquelle elle va l'appeler chaque jour pour venir en séance et de noter en plus de l'heure à laquelle elle doit venir à la séance. Et donc elle lui explique, elle lui dit là concrètement vous allez passer à côté de l'harmonisation cognitive. Si vous continuez comme ça, on verra pas l'intérêt. Et surtout elle lui explique qu'en septembre elle va commencer ses cours et qu'elle aura des devoirs à faire. Et alors comment est-ce qu'elle fera? Et elle lui dit il faut régler ses questions. Enfin régler ses questions, ça commence dès maintenant. Donc voilà. Là, j'avais une idée. D'abord, que les praticiens sont rarement dans un registre exclusivement cognitif, c'est-à-dire qu'en fait, ils déploient des méthodes, des outils qui sont directement rapportés au quotidien, et que plus globalement, en fait, par ces outils, se jouent en fait les conditions d'existence des individus. C'est-à-dire que on n'est pas uniquement dans le cadre extrêmement normatif de savoir comment est-ce que la personne va pouvoir travailler ou répondre à des attentes, mais c'est aussi comment est-ce que, grâce à ces outils, elle peut continuer à vivre. Donc, je vais prendre un deuxième cas et puis ce sera ma conclusion. Donc là, c'est un homme d'une quarantaine d'années que j'ai rencontré après un exercice de remédiation cognitive collective, donc le jeu virtuel. Et donc il m'explique ses difficultés où il dit, donc je le cite, il y a quand même des symptômes qui font qu'à un moment donné, je vais rester bloqué chez moi. J'ai des choses à faire, je sais pas comment m'organiser, je vais être comme ça, pas forcément malheureux, mais pendant 3 heures à rien faire, à me demander par quoi je vais commencer. Et puis au fur et à mesure, il en vient à préciser ça et en expliquant la remédiation cognitive lui apporter des clés pour s'organiser et comprendre le handicap. Et donc il va prendre le problème des papiers administratifs et du tri des papiers administratifs. Et notamment, il m'explique qu'à l'époque, il venait d'être licencié, qu'il devait s'inscrire au chômage, et donc il devait constituer un dossier, et que la situation l'angoissait énormément. Et donc, il me raconte une situation émotionnelle, il appelle ça comme ça. Et donc, le stress qu'il a pris au moment où il arrive au Pôle emploi pour déposer son dossier, donc en gros, il arrive au guichet, on lui demande des documents, il est incapable de trouver les documents, et il a fait une attaque de panique. On est dans une pièce à part pour qu'il se calme, etc. Et donc, il me décrit ces situations anxiogènes qui sont par rapport à une administration, par rapport à un monde extérieur, etc. Et donc, il décrit cette impression d'être un numéro, d'avoir affaire à une espèce d'entité nébuleuse, d'en avoir besoin pour sa survie, car on dépend d'allocations. Et donc, en fait, les clés auxquelles il fait référence, c'est donc cette fameuse séance de tri des papiers administratifs et d'ouverture du courrier, donc qui ne sont pas, c'est une tâche qui revient régulièrement. Donc, c'est pas la simple procrastination contre laquelle on lutte tous au quotidien dans l'ouverture de notre courrier. J'espère que vous avez fait votre déclaration d'impôt, mais qui nous touche tous, voilà. Mais c'est plutôt un moyen d'aborder des situations anxiogènes, stressantes, de confrontation à l'extérieur, alors même que ce sont bien souvent leurs conditions de vie qui sont en jeu, c'est-à-dire que le renouvellement d'allocations, de chômage, l'accès à leurs droits en général, et que souvent ces personnes ne sont pas capables de réaliser parce que pour des raisons qui sont qualifiées de cognitives ou d'émotionnelles par les tenants de la remédiation cognitive. Et je vais m'arrêter là.
Merci beaucoup. On a donc une petite dizaine de minutes pour le jeu des questions.
Je voulais savoir, moi dans mon service, il y avait à l'époque, il faisait un jeu qui était censé être très moderne. Dans le service où j'avais réalisé mon enquête, il réalisait un jeu qui s'appelle Michael's Game, qui était très à la mode. Et du coup, je me disais qu'en cette présentation, c'est très symptomatique de ces pratiques, mais. Tu parles jamais de. Est-ce qu'ils abordent les compétences relationnelles en fait? Parce que là, on voit beaucoup de. Bon, c'est très. Encore une fois, symptomatique, c'est-à-dire qu'on voit qu'avant, il y avait peut-être un travail plus sur l'autonomie de réflexion, et là, on est sur une autonomie de l'action. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à vous en sortir seul, ça ne va pas. Ce que je trouve. Donc, ça, c'est. Ma question, c'est est-ce que ce jeu se fait encore et comment. Est-ce qu'il y a des exercices sur du relationnel en fait? Parce que là, on voit beaucoup de. Faire ses courses, faire ses papiers, etc. Mais ces gens-là, ils ont quand même, en tout cas pour les cas des schizophrénies, il y a beaucoup de délires, de désorganisation, ça affecte énormément la vie, les interactions. Et je trouve, cet exemple est quand même, c'est assez incroyable de voir à quel point. Alors, est-ce que c'est lié au fait que ce sont des infirmières qui le font et qu'on peut se dire qu'elles n'ont pas le temps, qu'elles sont dans des conditions délicates et qu'il n'y a pas de réflexivité pour le coup ou qu'elles ne sont pas formées à la thérapie? Mais j'ai vu aussi en TCC. Une schizophrène en particulier qui avait peur de se perdre dans une gare, et à aucun moment la psychologue ne se demandait s'il y avait un lien entre le fait d'avoir peur de se perdre et d'être schizophrène. Non, elle essayait juste qu'elle ne fasse pas de crise d'angoisse dans une gare. Et à un moment, même si c'est caricatural de dire ces méthodes ne questionnent pas le sens du symptôme, il y a des fois où ça paraît vraiment étrange que le régime d'injonction qui vise à produire des menaces sur vous n'arrivez pas à arriver à l'heure, il y a un moment où le rôle du soignant c'est aussi de demander à la personne dans un cadre qui n'est plus scolaire faut qu'on réfléchisse à pourquoi vous arrivez en retard. Sinon, ça, j'imagine qu'il y a vraiment une limite à cet outil.
Alors, oui, alors Michael's Game, c'est un classique. Alors là, en fait, j'ai parlé, il y a aussi des exercices de remise cognitive qui jouent sur les émotions et sur les interactions sociales. Donc, ils en développent aussi beaucoup, je n'en ai pas parlé là. Donc, c'est par exemple des exercices de reconnaissance des émotions faciales. Donc, on leur présente des visages de personnes qui ont des degrés plus ou moins forts d'expression d'une émotion, et puis la personne doit dire quel type d'émotion c'est. Mais c'est aussi des vidéos, donc on leur présente des situations d'interaction sociale, et puis on leur propose trois possibilités de qui décrivent ce qui se joue comme interaction sociale à ce moment-là. Donc c'est souvent des sortes de séries allemandes très très caricaturales, mais voilà, c'est quelqu'un qui apporte un bouquet à une femme. Et puis on comprend que la femme n'est pas très contente d'avoir cet homme qui lui apporte un bouquet, qu'elle n'a pas envie de le voir, etc. etc. Et puis les propositions, ça va être effectivement ça. Elle est gênée par elle est contrariée par le fait qu'il se présente chez elle avec un bouquet, ou ça va être elle n'aime pas les fleurs, ou les fleurs sentent mauvais, enfin voilà, ce genre de choses. Donc il joue aussi extrêmement sur ces registres-là, sur ses capacités relationnelles, ses capacités émotionnelles à interagir, mais qui souvent, en fait, c'est des exercices qu'il utilise essentiellement avec des personnes qui souffrent d'autisme, et notamment des Asperger, d'autisme de haut niveau. Pour revenir à la deuxième question, en fait, alors dans cette structure-là, les infirmières ont énormément de temps. Alors chaque séance doit durer une heure, généralement chaque séance dure une heure et demie, 1h45, elles ont du temps, elles sont là, elles sont exclusivement dédiées à ça, aux séances de remédiation cognitive. Elles n'ont pas d'autres activités. Elles-mêmes se décrivent comme thérapeutes, est-ce qu'elles sont thérapeutes, ce qui pose plein de questions, mais c'est en fait, j'aurais pu parler de tous ces moments où justement il y a le fameux comment allez-vous quand le patient arrive, et qui est le moment en fait où on en profite pour justement traiter toutes ces questions-là. Là, dans la situation où j'étais, l'infirmière était très énervée parce que c'est effectivement la personne arrivait en retard, 45 minutes en retard à chaque séance, ce qui posait beaucoup de problèmes, et ce jour-là elle était assez énervée, donc en fait elle a choisi de passer volontairement sur toutes les explications que pouvait apporter la personne pour la recadrer en fait sur le besoin, l'importance d'arriver à l'heure. Notamment le fait, à un moment, moi j'ai compris que la personne décrivait qu'elle avait des tocs, c'est-à-dire qu'en fait elle disait qu'elle mettait 20 minutes à fermer la porte de chez elle. L'infirmière a fait exprès de passer outre et de ne pas s'intéresser à ça, parce qu'elle n'était pas là pour ça. Donc elles ont une réflexivité comme ça, mais comme elles s'intéressent à la question de savoir pourquoi est-ce que, c'est le fondement même de la mission cognitive, pourquoi est-ce qu'une personne ne va pas prendre le métro? Est-ce qu'elle ne va pas prendre le métro parce qu'elle est, parce qu'elle est agoraphobe, en fait? Est-ce qu'elle va être angoissée d'être en public? Parce qu'elle ne va pas prendre le métro parce qu'elle n'est pas capable de planifier un trajet sur un plan de métro, ce qui arrive très fréquemment avec ces personnes-là. Enfin voilà, de rechercher, de décomposer en fait ces micro-actions de la vie quotidienne que nous on fait tous, et parce qu'on mobilise des compétences, des capacités qu'on a et qui nous permettent de le faire. Et avec la mission cognitive, en fait, il s'agit c'est procédural au sens cognitif. Il s'agit de décomposer chaque action de la vie quotidienne pour essayer de comprendre à quel moment il y a un biais pathologique. Le cas classique, c'est le four micro-ondes. Donc on va aller chez la personne et on va mettre des pastilles ou des mots sur le four micro-ondes pour que la personne sache comment faire fonctionner le four micro-ondes. D'abord ouvrir la porte, mettre le plat, fermer la porte, mettre le thermostat, etc. etc. Ce que nous on fait en 15 secondes. Là on le décompose.
Ok, on peut prendre encore 5 minutes, pas plus, donc on va prendre pareil une salve de questions et après tu feras les réponses en batterie.
En batterie, c'était fort.
Okay. Ouais, moi c'était plus un commentaire. Je trouve qu'en fait, dans ta présentation, il y a un grand contraste entre ce côté très stimulant de la plasticité cérébrale et cette idée que la pathologie mentale soit pas figée, et à la fois ce côté très sec en dehors de la relation, de tous ces outils, et ce côté scolaire et dans la performance. Alors, je connais pas du tout la. Une question très naïve, la pathologie en question, et du coup, à quel point ça peut être rassurant peut-être d'être dans ce genre d'activité, mais pour une personne totalement extérieure, je trouve que c'est un peu angoissant, moi, par exemple, tu vois, de devoir faire ce dessin à l'envers, de devoir faire des devoirs, de devoir faire des devoirs, en fait, et tout ça. Et je me pose la question sur ce contraste, en fait, entre voilà, cette théorie qui est très stimulante et ces outils qui me semblent aussi, tu vois, par exemple, les jeux virtuels, je ne sais pas dans quelle mesure, en fait, quand toi, tu as des voix ou tu... En fait, c'est pas un peu space de faire des jeux virtuels qui, du coup, te font faire, je sais pas, c'est pas avoir la sensation d'être encore dans un autre truc et qu'en fait, ça te perd. Enfin, je sais pas, je me pose des questions un peu pratiques, en fait.
Mais en fait, c'est le but, c'est des mises en situation, donc il faut qu'ils soient angoissés en faisant ça, en fait. La question, c'est qu'ils arrivent à gérer leur angoisse, parce que l'angoisse, l'état émotionnel, ça parasite les fonctions cognitives. Quand tu es angoissé, quand tu fais une communication, tu bafouilles, tu n'es pas capable de réfléchir.
Et ça part du principe qu'il y a donc l'angoisse, que ces personnes-là peuvent dépasser leur angoisse, que finalement, c'est pas plus anxiogène.
C'est qu'on va leur donner des outils, des méthodes, des stratégies, c'est le terme qu'ils emploient, pour justement dépasser ce genre de choses. Mais là, je présente des exemples, mais par exemple, dans le comment ça va, j'ai le souvenir d'un patient qui rentre en disant bah, ça va pas très bien, je viens d'avoir. C'était une jeune femme avec qui il était en train d'essayer d'entretenir une relation, elle vient d'avoir au téléphone, ça s'est mal passé, etc. Et la thérapeute va lui expliquer comment, dans quelles conditions, répondre à un appel de cette personne, donc ne pas répondre à un appel de cette personne au moment où il est dans la salle d'attente au service de psychiatrie, parce que c'est peut-être pas le meilleur moment pour avoir une conversation de cette nature-là, etc. Donc c'est. C'est des choses que je voulais dire après, mais en fait, l'entrée par la cognition, ces exercices-là, ce sont juste des moyens d'entrer dans le quotidien de ces personnes-là pour leur offrir des clés pour fonctionner normalement. Après, ce qui est intéressant, c'est que, une chose que j'ai remarqué, c'est que les patients adhèrent ou n'adhèrent pas, mais très rapidement, en fait.
Du coup, j'ai une question aussi, juste à
prendre les questions. S'il y en a. Ouais, non. Franck, vous me posez les deux questions en même temps.
Ah oui, salve.
Bon, voilà, salve. Donc. Et après, une question, on en sort trois comme ça. Vas-y.
Quand on observe des thérapies psychiatriques contemporaines, on en est, alors en tant qu'anthropologue, un peu dans une sorte de jugement à savoir si c'est bien, si c'est mieux, si c'est passéiste ou si c'est plutôt progressiste. Et j'aurais plutôt tendance à, enfin, si j'observais ce genre de pratique, à essayer de comprendre un petit peu, en me distançant des discours scientifiques, enfin dits scientifiques ou des discours des praticiens, parce que je trouve qu'il y a une certaine réserve de la part des anthropologues à critiquer ce savoir, alors soit à le critiquer sur un aspect plutôt moral, soit à s'en défier un peu et puis à être absorbé par le discours scientifique, à se l'approprier. À le retranscrire, ce qu'on ne fait jamais quand on observe un rituel de possession. On ne cherche pas à savoir si c'est vrai ou pas. Si on est pris par cette question-là, on sait très bien qu'on va dans le mur, on ne va pas faire une observation, une ethnographie de bonne qualité. J'ai le sentiment que parfois, il y a un peu cette fascination et à la fois cette réserve. Donc on est tendu un peu par le fait de juger ce que ça représente, alors qu'on pourrait tout à fait avoir comme point de lecture le fait de se dire qu'est-ce que ça représente dans la gestion d'une population de patients, ces nouvelles pratiques, est-ce que ça a un effet discriminant ou pas, sur quel choix on va faire pour offrir ce type de prestations, de services à tel ou tel patient, pourquoi on choisit tel ou tel patient et pas d'autres, pour permettre de connaître un petit peu quelles sont les nouvelles régulations de la santé mentale, et inversement, et à l'opposé, peut-être suivre des parcours, entendre les discours que vous faites, et peut-être mettre en valeur aussi comment les patients s'approprient ces outils, mais dans une vie quotidienne qu'il faut peut-être observer au-delà des discours qu'ils peuvent tenir pour essayer d'évaluer un petit peu ce que ces pratiques de la psychiatrie ont comme effet dans le quotidien de ces patients. Et on ne doit pas, me semble-t-il, sans dire qu'il y a des discours, que ce soit ceux des patients, bien entendu, que ce soit ceux des praticiens. Et je trouve que peut-être on a un peu trop de réserve, parfois où on est peut-être un peu trop aspiré, notamment c'est assez fascinant quand on écoute et discours des psychiatres qui parlent de remédiation cognitive, ça fait très scientifique, c'est très pompeux, et c'est vrai comme vous le disiez, quand on regarde en pratique ce que c'est assez basique, et ça n'a rien de très différent de certaines pratiques instituées depuis les années 60-70 avec la psychiatrie de secteur, où il y a tout un tas d'activités qui sont proposées aux patients dans des projets de resocialisation, mais de pouvoir peut-être parfois ne pas être aspiré trop par le discours des psychiatres, et là je fais référence aussi peut-être à la communication à laquelle je n'ai pas assisté, je suis désolé, j'ai eu que la conclusion où en fait être pris par le discours de cette psychiatre qui dit oui voilà, moi c'est comme ci, c'est comme ça, on sait très bien que les pratiques ne coïncident rarement avec les discours et avec le savoir dont on s'inspire en règle générale. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de similitudes entre des pratiques dites psychanalytiques ou TCC qu'on peut le croire à travers les discours que tiennent les psychiatres.
Alors, les deux dernières questions brèves et les réponses très brèves, sinon on n'aura plus rien à manger.
Simplement, est-ce que dans ce que vous avez observé, vous aviez aussi une autre, dans la panoplie des, par exemple, par thérapie, par exemple, la créativité, puisqu'il s'ajoute aussi beaucoup dans la plasticité cérébrale. Je ne peux pas dire que la remédiation cognitive est l'élément primordial dans la plasticité cérébrale. Est-ce que on peut jouer sur un registre ou sur une panoplie qui comprend la réalisation cognitive, la thérapie, comment c'est articulé, comment c'est articulé.
Et puis oui, la question, moi ma question c'était juste par rapport au recrutement entre guillemets des patients, quoi. Est-ce que il y a déjà des critères qui filtrent, mais avant est-ce que tu as observé des éléments de différenciation sociale chez ceux qui se présentent et ensuite chez ceux qui sont sélectionnés, j'imagine que les critères jouent et...
Je suis d'accord. oui, alors c'est comme toutes les pratiques de psychiatrie contemporaine, notamment de psychiatrie hospitalière, elles sont articulées avec plein d'autres formes de prise en charge, le mindfulness, la TCC, etc. Les patients font rarement une seule chose. Après, ils font pas forcément en même temps, mais on leur propose plusieurs choses. Et moi, je prétends pas que leur médecine cognitive, ces psychiatres-là vont vous dire que leur médecine cognitive c'est le meilleur moyen d'accéder à la plasticité cérébrale, en fait. Quand on lit les neuroscientifiques, ils vont vous dire que le simple fait de qu'on parle tous les deux, on joue sur une plasticité cérébrale. Différenciation sociale, il y a un biais majeur qui est au fait, c'est à Sainte-Anne, à l'hôpital Sainte-Anne, je peux le dire parce que c'est un projet interdisciplinaire. Ils ont un biais majeur qu'en fait ils ont un recrutement sur des secteurs parisiens qui sont plutôt aisés. Et donc ils ont souvent des patients qui, même quand ils sont très déficitaires, qui ont leur propre appartement, qui vivent chez leurs parents jusqu'à des âges très avancés, qui ont des moyens. On n'est pas du tout dans la population de patients psychiatriques qui sont à la rue. Il n'y a pas de patients à la rue qui viennent. Ils ont souvent un psychiatre de ville, ce qui n'est pas le cas de tous les patients psychiatriques, etc. Donc il y a un gros biais de recrutement là-dessus, mais même les psychiatres l'avouent, et ça biaise totalement leurs études parce que ils ont des patients qui ont un master, ils ont des patients qui
C'est pas forcément un biais, au contraire.
Non, c'est un biais.
C'est un élément d'analyse extrêmement.
Ouais, voilà. C'est un biais pour eux. C'est que quand ils font des études, on leur répond que le secteur 14, c'est pas loin. Ça y est, j'ai fait ma salve.
Ok, merci beaucoup, merci à tous. On a. On...